Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci au comité d'organisation du colloque, au CDPNE, à tous ceux qui ont imaginé organiser cet événement qui est en effet très riche, très intéressant et qui m'ont proposé de venir parler ce soir. C'est positivement, la situation est pour moi positivement absurde. Hein. Moi, je suis enseignant à l'université et je suis philosophe de terrain. Là, vous allez voir me toucher le dos probablement pendant ma conférence. Je me suis fait une sorte de lumbago en faisant de la régénération de rivières inspirées du castor vendredi dernier dans l'eau en construisant des structures qui ressemblent à des ouvrages de castor. Et je me retrouve énormément. Je donne cours à des étudiants philosophes dans des petites classes à l'université. Je me retrouve sur une scène de cinéma à vous parler. Bon, je suis ravi et je vais essayer de toute façon me laisser traverser par des idées qui m'importent et qui sont plus grandes que moi pour oublier un peu le caractère étrange de la situation pour moi, parce que vraiment, je n'ai pas l'habitude. Par ailleurs, je l'avoue aussi, je suis vraiment nul en PowerPoint. Et là, en fait, c'est impitoyable, cette situation, parce que j'ai un écran de cinéma sur lequel... Et donc, ça va être très drôle. Enfin, je veux dire, on va faire avec tout ça. Ça n'a pas d'importance parce que ce dont je veux parler est plus grand que ces questions-là. Et donc, je commence. Je me lance. Il est 8h42. Je vais essayer de parler moins d'une heure, entre 45 minutes et une heure. Et puis ensuite, on discutera. On prendra des questions et on échangera plus librement. Ce que je vais essayer de vous restituer ici, c'est présenter c'est des idées philosophiques, scientifiques, techniques, pratiques, politiques, qui sont massivement présentées dans un livre qu'on vient de publier avec Suzanne Husky chez Actes Sud, qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre », dont j'ai écrit le texte et dont elle a fait des aquarelles. Ça, c'est un exemple d'une de ces aquarelles où on essaie d'imaginer un futur dans lequel les manuels d'agriculture livrés par la FNSEA reposeront sur l'idée d'hydrater l'agriculture en faisant alliance avec le castor pour avoir des formes d'élevage plus résilientes et des habitats riches. La peinture, ça nous permet d'imaginer les futurs désirables et puis de prendre de la distance, prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc régulièrement, je renverrai au livre, notamment parce que c'est très compliqué d'avoir un public aussi hétérogène. Quand je parle avec des scientifiques, je suis dans un régime d'administration de la preuve. Je dois prouver, il y a des enjeux de crédibilité. Quand c'est du grand public, les enjeux sont très différents. Là, le public est totalement hétérogène. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent assez bien ce que je vais dire. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Donc moi, il faut que je fasse justice à cette diversité et que j'essaie d'être généreux à plusieurs niveaux de lecture, ce qui veut dire que ce sera un peu décevant pour tout le monde. Donc régulièrement, sur les enjeux, on va dire, de scientificité, je renverrai au livre ou je renverrai aux articles ou à la littérature scientifique qui est mobilisée dans le livre. Alors, voilà, je commence maintenant. Ce qui me semble vraiment décisif, là, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est que, concernant le rapport des sociétés humaines, des économies humaines au monde vivant, on est à un endroit où se nouent des enjeux majeurs concernant le temps, concernant la temporalité. Et je vais tisser ensemble ces réflexions sur le temps pour essayer, vous allez voir, de prendre du recul et de prendre de la hauteur sur les questions de castor, de rivière, de biodiversité. Quand je parle d'enjeux fondamentaux concernant le temps, je voudrais explorer trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du passé. Et vous allez voir, en parlant de passé, je vais vous parler d'amnésie. Je vais vous parler de comment nos sociétés contemporaines ont oublié ce que c'était que des milieux de fond de vallée vivants, ce que c'était que des hydrosystèmes fonctionnels, ce que c'était des rivières peuplées et capables d'accueillir de la vie. La deuxième couche de temporalité qui est clé, c'est le présent. Le présent, aujourd'hui, c'est des enjeux majeurs d'incertitude et de nécessité d'agir dans un monde qu'on ne comprend pas complètement, et dont les bouleversements vont plus vite que notre capacité à stabiliser des sciences robustes. Et ça, c'est un enjeu absolument clé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Agir sur des milieux, restaurer, régénérer des milieux, dans un monde où on a même pas eu le temps, les sciences n'ont même pas eu le temps de comprendre ce que c'était que l'Holocène, comment fonctionnaient les écosystèmes à l'Holocène, qu'on bascule dans un nouveau régime climatique, dont on ne comprend pas encore les effets de bouleversements qui, eux, sont certains. qui auront lieu sur nos milieux de vie, sur les écosystèmes qu'on habite et sur les grandes cohortes de vivants qui jouent un rôle clé dans notre subsistance et dans notre qualité de vie. Et la troisième dimension de ce temps troublé, c'est le futur. Et le futur, en fait, aujourd'hui, ça a un nom, le futur. Mais ça s'appelle le changement climatique. Et ça, il y a une responsabilité politique et morale à prendre au sérieux la nature de la situation. À mon sens, aujourd'hui, on ne peut pas décemment parler de restauration de rivières, de régénération de milieux ou de biodiversité si on ne prend pas en compte le siècle qui vient, le changement climatique. Et c'est extrêmement compliqué. Déjà que la vie était très compliquée au XXe siècle, et alors au XXIe siècle, déjà que la protection de la nature, la conservation de la biodiversité, c'était très compliqué au XXe siècle, qu'est-ce que ça devient dans un futur extrêmement incertain et dont la seule certitude, c'est l'amplitude des bouleversements. Voilà, c'est ces trois dimensions que je vais traverser. Le passé du temps profond avec nos amnésies, le présent avec la nécessité d'agir dans un monde incertain et le futur climatique avec ses effets de bouleversement. Maintenant que j'ai mis en place un peu ce cadre, je vais rentrer dans une première petite histoire de temps bref, de notre rapport aux hydrosystèmes, de notre rapport aux rivières. Vous allez voir, je vais régulièrement basculer du concept de rivière au concept d'hydrosystème et vous allez comprendre à un moment clé pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai besoin de faire ça. Aujourd'hui, on est là en partie pour parler du castor et le castor est une sorte de rongeur. C'est un rongeur. C'est un rongeur assez peu charismatique, soyons honnêtes, qui s'avère noué dans son action spontanée sur le milieu des problématiques majeures impliquant le rapport au changement climatique et le rapport au temps profond des milieux dont on hérite. Et c'est en ce sens-là que c'est une porte d'entrée extraordinaire pour parler de tout ça. Alors avant de parler du castor, je veux parler de ce dont on hérite, nous, au début du XXIe siècle, concernant ce qu'on a fait au milieu de fonds de vallée, c'est-à-dire aux milieux continentaux impliquant la gestion de l'eau. Il y a quelque chose qui est assez fondamental à rappeler, c'est que dans la gestion des milieux aquatiques continentaux, on a massivement transformé les milieux. Cette histoire a été racontée par de bien meilleurs historiens environnementaux que moi, mais on va dire qu'elle se manifeste par différentes couches de temporalité qui vont impliquer par exemple des premières formes de drainage de zones humides déjà à l'ère médiévale avec l'action des évêques pionniers, avec un travail sur les rivières qui va avoir pour vocation souvent pour se prémunir en partie des inondations et pour gagner de la terre sur les rivières, produire des effets de corsetage, puis d'endiguement, puis tardivement de recalibrage. Et ça va prendre une dimension majeure dans les deux derniers siècles, 19e et 20e siècle, avec le travail d'histoire de l'hydromorphologie de Élise Catalon, on appelle ça la pensée aménagiste, au moment où la société humaine va décider de prendre en charge le comportement, le fonctionnement des cours d'eau pour se prémunir contre les inondations, pour aller construire nos villes et notre monde dans les anciens lits majeurs des rivières. Pour générer de l'électricité, on va commencer à construire toute une série d'énormes infrastructures avec cette idée qu'il faut domestiquer des rivières qui sont imprédictibles et sauvages. Cette pensée aménagiste, elle a été compréhensible à son époque, elle a produit des effets qui sont sur certains points défendables, mais dans sa systématicité, aujourd'hui, elle est très problématique. Et je vous montre toute une série d'images historiques ce qu'on a fait à nos rivières. C'est intéressant de restituer un petit peu cette iconographie. Ici, c'est assez caractéristique, vous allez voir, c'est clé pour nous, c'est le travail de curage des embâcles et des bois des rivières, qui ont été vidés en grande partie, et parfois encore aujourd'hui, de ce bois et des cycles de la mort de la forêt dans l'eau, c'est-à-dire du bois qui tombe dans l'eau, du bois des forêts, des ripisylves et même au-delà. Et puis jusqu'à des formes, on va dire, les plus tardives, qui ont le visage de ce qu'on appelle le drainage agricole. C'est, chez nous, ça a été amplifié dans les années 62-64, et en particulier par des politiques de remembrement et une loi Pisani ici, où le dernier visage de cet acte aménagiste passe par le remembrement agricole. La clé de ce grand mouvement de rapport à l'eau, de transformation du comportement de l'eau dans les fonds de vallée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère du drainage. Ce qui a vraiment caractérisé notre rapport au milieu, c'est le drainage. Le drainage, c'est l'évacuation de l'eau des continents et des milieux, que ce soit des zones humides, que ce soit des rivières qui étaient en tresse, qui étaient en méandre, que ce soit des ripisylves, que ce soit des prairies humides, pour une raison assez fascinante, qui est que on voulait la terre et on avait besoin d'un certain degré de sécheresse de la terre pour construire dessus, pour faire notre agriculture dessus, pour faire passer nos machines dessus. Je vous épargne les diagnostics réels de l'ère du drainage. Si ça vous intéresse, allez voir dans le livre. Mais juste, je vous donne deux clés qui sont assez fascinantes. Si vous voulez savoir pourquoi nos paysages ressemblent à ce à quoi ils ressemblent, donc vous savez qu'ici, et en fait en grande partie de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, on est dans le biome de la forêt tempérée, de la grande forêt tempérée originelle. Ici, c'était de la forêt. Et si jamais on lâche la charrue et le tracteur, ça redevient de la forêt. Le milieu a une tendance spontanée à reconstituer sa forêt. C'est pas des forêts, ce sont des champs, ce sont des prairies, ce sont des pâtures. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, l'une des raisons pour lesquelles on a drainé, c'est que c'est que notre agriculture qui vient du néolithique, par les natoufiens, elle a rapporté du Moyen-Orient des graines qui poussaient dans des milieux de type xérophile, des steppes de type semi-aride. Le blé, l'orge, ce sont des céréales qui, originellement, sont des céréales de milieu beaucoup plus sec qu'une forêt tempérée. Ça ne pousse pas dans une forêt tempérée qui est beaucoup plus humide. Et donc, en fait, les écosystèmes de champs, les socio-écosystèmes de champs et de champs céréaliers qu'on a façonnés depuis plusieurs milliers maintenant d'années ici, donc dans le processus de néolithisation, en un sens, ils ont été gouvernés par les besoins de céréales. C'est les céréales qui ont choisi à quoi ressemblait la France. Et dans un second temps, c'est les machines qui ont choisi à quoi ressemblait la France. Parce que l'une des raisons clés du drainage dans les milieux agricoles tardifs, c'est la nécessité de faire passer les machines. Nous, on y est confrontés au quotidien. Moi, je travaille beaucoup avec des paysans dans des associations paysannes. Sur une ferme au Grand Laval, dans la Drôme, on a reconstitué un milieu castor. On a fait un système castor. On a réinondé des prairies. C'est magnifique. Il y a de la vie qui rayonne dans tous les sens. Par contre, le tracteur passe plus. Et ça, c'est pas du tout inintéressant de revenir aux contingences constitutives qui ont façonné certains des aspects clés de notre monde. Donc voilà, ère du drainage, évacuer l'eau, accélérer sa fuite, et ce faisant, et ça c'est la clé, générer une sécheresse hydrologique systémique sur les milieux continentaux. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous faites plonger un cours de rivière beaucoup plus bas que les berges, vous faites plonger simultanément sa nappe d'accompagnement, sa nappe phréatique, on le verra plus loin, et vous générez vous videz les aquifères, la partie du sol dont la conductivité hydraulique est telle qu'elle peut se saturer d'eau. Vous la videz d'eau et vous faites des milieux qui sont plus secs qu'à l'époque où les rivières pouvaient librement explorer leur lit majeur. Ère du drainage, accélérer, évacuer l'eau, bétonner l'eau et puis polluer l'eau. Bon. Et ce qui est fascinant, c'est que face à cette ère du drainage, dont on a hérité, nous arrivons maintenant face à un changement climatique. Quand on parle de sécheresse et d'inondation caractéristiques de l'augmentation des fréquences des événements pluviométriques majeurs, inondations ou des sécheresses, comme étant strictement reliés au changement climatique, on manque un pan clé du problème, c'est que le changement climatique vient amplifier des problèmes sur un territoire que nous avons nous-mêmes structurellement rendu vulnérable aux sécheresses et aux inondations. La sécheresse hydrologique que j'évoquais tout à l'heure est amplifiée par les sécheresses météorologiques du changement climatique. La sécheresse hydrologique, c'est que vous faites un sol qui ne peut plus retenir l'eau, donc il reste sec. La sécheresse météorologique, c'est que vous avez moins de pluies ou des pluies plus dispersées en fréquence. La seconde, du changement climatique, vient amplifier la première. Second aspect, les inondations actuelles sont bien évidemment liées à certains phénomènes météorologiques amplifiés par le changement climatique, mais le fait qu'il génère des inondations est directement corrélé à des aménagements de la terre qui sont ceux de l'ère du drainage. Pour une raison assez simple, c'est que quand vous drainez systématiquement, vous rendez les sols agricoles incapables de retenir l'eau et de la ralentir, les villes incapables de retenir l'eau et de la ralentir parce que tout est bétonné, et que vous accélérez l'évacuation de l'eau dans les rivières, et bien les vagues de crues accélèrent dans les tunnels. Et c'est là qu'elles vont générer des effets absolument gravissimes lorsqu'elles vont impacter les infrastructures ou le bâti humain. Les crues, les inondations et les sécheresses qu'on traverse aujourd'hui sont le couplage des effets qu'on commence à sentir nettement du changement climatique et de l'héritage de notre aménagement de la Terre. Ici, sur la question des hydrosystèmes, ère du drainage, évacuer, accélérer, assécher, bétonner. OK. Et donc, face à cette question, il y a toute une génération d'hydrologues, d'hydromorphologues contemporains, pour partie américains, certains sont australiens, d'autres sont allemands, qui soutiennent une thèse très intrigante et très simple qui dit eh ben, pendant deux siècles, nous avons drainé, accéléré, évacué, bétonné et confisqué l'eau. Au XXIe siècle, il faut changer de paradigme. Il faut passer d'une ère du drainage à une ère du freinage, ou d'une ère de l'évacuation à une ère de la réhydratation. Et plutôt que accélérer, il faut ralentir l'eau sur la terre. Plutôt que assécher, il faut réhydrater la terre. Plutôt que pousser l'eau à ruisseler sur du béton ou des sols agricoles incapables de retenir l'eau, il faut infiltrer l'eau dans les sols, recharger les nappes. Plutôt que de confisquer l'eau, il faut la partager avec toutes les formes de vie qui jouent un rôle majeur dans la régulation du climat et dans la pérennité des dynamiques du vivant dont on a besoin, nous aussi, pour vivre. Non plus accélérer, drainer, ruisseler, bétonner, mais ralentir, hydrater, infiltrer, partager. D'accord. Et ce nouveau programme, c'est là que ça devient drôle. Il est vraiment pensé par les hydromorphologues les plus pointus du XXIe siècle. Et en fait, il s'avère que depuis entre 30 millions d'années et 8 millions d'années, on ne sait pas. On va dire 8 millions d'années par convention, si la question de la datation évolutionnaire vous intéresse, allez voir le livre. Depuis 8 millions d'années, il y a quelqu'un qui fait ça spontanément toute la journée. Mais c'est l'histoire de sa vie. Ralentir, infiltrer, hydrater, diffuser, partager l'eau. Donc on a pas mal parlé aujourd'hui de cette histoire de la présence du castor, castor fiber, dans l'hémisphère nord européen, asiatique, castor canadensis dans l'hémisphère nord américain, canadien. Je dis quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un animal qui, vraisemblablement, on a toutes les raisons de penser, depuis au moins 8 millions d'années construit. Les deux cousins, qui sont deux espèces différentes et non interfertiles, castor canadensis, castor fiber, ont des comportements de construction qui sont très nets et à beaucoup d'égards très analogues. Et le castor a été éradiqué ou quasi éradiqué. Clairement, il y a une extinction fonctionnelle dans la plupart des contextes européens. En France, c'est difficile à dater parce que c'est un processus long, mais il y a des accélérations autour du XIIe siècle. Et puis, il y a une quasi éradication fonctionnelle un peu partout autour du XVIe, XVIIe siècle, ça dépend des contextes, sachant qu'au début du XXe siècle en France, on a quelques dizaines ou centaines d'individus, essentiellement sur l'axe rhodanien, donc ça c'est la théorie, en effet les sources sont extrêmement, sont assez fragiles. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est de prendre du recul en allant observer la question de la survie fragile de cet animal, en particulier en France et dans quelques bassins, dans quelques poches en Europe au début du XXe siècle, à la lumière de ce que ça a été dans le temps profond de l'écologie historique européenne. Donc ça, c'est des choses qu'on va explorer ensemble. Mais avant d'aller faire un long voyage dans le passé, dans les millions d'années du passé, je voudrais qu'on aille se confronter directement aux enjeux majeurs du futur. Et là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est, à mon sens, vraiment clé. Je vous présente ici un article qui me semble très important, publié en avril 2022 par Chris Jordan et Emily Fairfax, qui sont deux scientifiques brillantissimes de la jeune génération américaine. Et le titre me semble absolument important parce que normalement, ça a l'air d'être une plaisanterie. Donc, si je vous le traduis, le castor comme plan d'action climat pour les eaux douces nord-américaines. Donc imaginez les enjeux climatiques, on est tous au courant de leur ampleur, de la difficulté d'y faire face, du sentiment d'impuissance à l'égard des solutions. Et là, vous avez quelque chose qui pourrait ressembler à un canular, deux scientifiques très reconnus, très solides, qui disent « Ah ben, on a un plan, vous en faites pas, on a un plan. » Ça s'appelle le castor. Et cet article, qui est vraiment très récent, est décisif parce que pour pouvoir prendre en charge, libérer la question du castor et des rivières, on va dire d'approches séparées et de courte vue, il va mobiliser quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, que je vais appeler avec vous ce soir des hybridations, et des hybridations de savoir ou des hybridations d'approches. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup de naturalistes. On était beaucoup de naturalistes au colloque. Et en fait, sur les questions du monde vivant et de son fonctionnement, on a hérité d'un fonctionnement qu'on pourrait dire en rivière incisée. Mais non, la métaphore ne va pas encore vous parler. En silo. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes d'écologie animale ou de la faune qui sont très forts sur la faune. Et on a des spécialistes des rivières qui sont de très bons hydrologues ou des hydrauliciens. Et dans les rivières, on a des spécialistes de la forme des rivières qui sont des très bons hydromorphologues. Et puis on a des hydrobiologistes qui, eux, sont capables de déterminer qui habite dans les habitats rivières. Mais en fait, au final, ces savoirs sont massivement segmentés. Et ce qui est vraiment clé sur le castor, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on hérite massivement d'assez belles connaissances en écologie et presque éthologie du castor. On hérite de connaissances pas du tout, très solides et robustes en hydromorphologie des rivières, question de débit, question de sédiments, question de crue morphogène. Mais en fait, on n'arrive pas, on a énormément de mal à les penser ensemble. Et si on veut faire face aux enjeux qui sont les nôtres, on doit enquêter dans des nexus, des nœuds, des points de réseau où se nouent ensemble des savoirs qui normalement ne fonctionnent pas ensemble. Et c'est ça qui est vraiment la force de Chris Jordan et Emily Fairfax. Et Emily Fairfax est éco-hydrologue. Elle va faire se nouer ensemble des savoirs qui normalement sont des savoirs de spécialistes des rivières et de l'autre côté des savoirs qui sont normalement ceux des spécialistes des castors pour essayer de prendre en charge, vous allez voir, des enjeux du changement climatique. Et je vais explorer toute une série d'hybridations. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'hybridation de ce genre, c'est-à-dire de chercheurs, d'enquêteurs, de naturalistes qui sortent des sentiers battus pour se rendre capables, et de collectifs, parce que quand on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire ensemble, qui vont se rendre capables de restituer la complexité du monde en sortant de leur silo, de nos silos disciplinaires. Qu'est-ce que ça donne chez Emily Fairfax ? C'est qu'elle hérite, comme nous aussi en France, d'une écologie du castor stabilisée, avec des savoirs robustes, pluriels, multiples. Et elle va plonger ces questions dans l'enjeu du changement climatique, dans les enjeux du changement climatique. Et ça va faire émerger des sciences qui n'existaient pas, des types de savoirs qui n'existaient pas. Exemple, un modèle. Donc ça, c'est un modèle scientifique d'Emily Fairfax. C'est un modèle qui est vraiment fascinant parce que c'est un modèle qui va tenir ensemble des enjeux d'hydrologie et des enjeux d'écologie du castor. Donc d'un côté, on a un cours d'eau sans castor, là-haut. Et dans ce cours d'eau sans castor, vous voyez que le cours d'eau est incisé, c'est-à-dire que la rivière, elle a plongé en dessous des berges. Conséquemment, le système racinaire des végétaux n'est pas en eau, sauf au moment des pluies. C'est ce qui est figuré par le petit compartiment rectangulaire là-haut. Et lorsque vous passez en condition de sécheresse, drought, moins de précipitations, eh bien la végétation n'a plus accès à l'eau de la nappe, d'accompagnement, puisque celle-ci, figurée en bleu là, comme une colline, eh bien, a plongé trop bas pour hydrater le système racinaire végétal. Et donc vous avez des sécheresses qui se manifestent dans l'impact direct sur la productivité végétale. Et qu'est-ce qui se passe avec un milieu castor ? Eh bien, vous avez un cours d'eau qui n'est plus incisé, qui est rehaussé à fleur de terre, dans lequel le matelas alluvial est aggradé. Ouh là là, je vais rentrer dans la technicité hydromorphose, c'est pas bon. Le cours d'eau est remonté à fleur de terre. Ce faisant, il a fait remonter la nappe d'accompagnement. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur une diapo, ça va être limpide. Et conséquemment, même en situation de sécheresse, la nappe d'accompagnement, la nappe de surface, et au contact du système racinaire des végétaux, et ça donne des milieux aquatiques, des fonds de vallée, des hydrosystèmes qui sont intrinsèquement plus résilients aux sécheresses. Je vous montrerai des images. Mais là, vous voyez, on est vraiment dans un espace d'hybridation. Ces sciences-là, elles n'existaient pas il y a ne serait-ce que 15 ans sur les liens entre castor et climat. Pourquoi je glisse régulièrement du concept de rivière au concept d'hydrosystème ? Dans la langue française, le mot rivière est un mot qui cache la réalité dont il parle. Si je dis rivière dans la langue française, vous voyez le trait bleu sur la carte. Écologiquement, une rivière, ça n'est pas le trait bleu sur la carte. Une rivière, c'est un milieu complexe qui, en anglais, on a un concept magnifique pour dire ça, c'est riverscape. La traduction française, malheureusement, est irrespirable, ça s'appelle paysage fluvial, donc c'est pas du tout plus clair. Mais le concept clé, c'est que la réalité d'une rivière, c'est non seulement l'eau qui court dans le lit mouillé, le lit visible, le lit mineur, mais c'est l'ensemble des mosaïques de milieux terrestres qui sont directement influencés par les écoulements au moment des hautes eaux. C'est la définition américaine du riverscape. Et non seulement c'est l'ensemble des milieux de surface qui sont impactés par les écoulements, mais c'est aussi l'ensemble des milieux qui sont impactés par le fonctionnement de la nappe d'accompagnement. Vous voyez ici, vous avez figuré là-bas dans le coin l'eau visible, l'eau de surface dans le lit mineur, mais en fait, ce n'est pas du tout la réalité de la rivière. La réalité de la rivière, elle est branchée avec une nappe d'accompagnement qui est figurée en dessous des pointillés bleus et qui, modulo la conductivité minérale, conductivité hydraulique du substrat minéral, est susceptible d'être beaucoup plus large, parfois des dizaines, parfois des centaines de mètres plus large que l'eau que vous voyez dans la rivière. La rivière, c'est une réalité invisible qui coule dans la terre à côté du trait bleu sur la carte et qui modifie et transforme une très grande diversité de milieux qu'on a massivement drainés, asséchés pour prendre la terre aux rivières. Et en vérité, l'un des enjeux clés des enjeux de sécheresse et d'inondation du changement climatique ont à voir avec les rapports entre la nappe et la rivière, les rapports invisibles entre la nappe et la rivière. J'en discute beaucoup avec des amis hydrauliciens et modélisateurs de nappe, hydrogéologues. C'est une catastrophe, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune, on ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les rapports nappe-rivière. Je vous épargne ici la technicité, je voulais simplement vous montrer, et puis je voulais faire un petit hommage au guide de restauration de l'Agence de l'eau, qui est un très bon texte. Et là, je voulais vous montrer une réflexion de cet ordre, un peu visuelle, qui est intéressante pour moi parce que c'est un manuel de restauration de cours d'eau, Krebel et Pillsbury, c'est 1934. Et c'est déjà une compréhension des dommages générés par le drainage, l'incision des rivières, et la disparition des castors, et c'est des propositions low-tech que finalement nous, 100 ans après, dont on s'inspire pas mal. Mais la clé, c'est vous voyez un écosystème avec au milieu un cours d'eau, il est en coupe, hein. Vous avez une prairie, grass, latéralement, dans le fond de vallée, et vous avez de la sauge qui est vraiment caractéristique de milieu sec, un équivalent de garrigue ou de maquis chez nous. Et ce qui est fondamental, c'est la water table, ground water table, qui est figurée en pointillé. C'est la fameuse nappe d'accompagnement dont je vous parlais. C'est la nappe invisible, c'est la rivière invisible. Lorsque la rivière est à fleur de terre, en hauteur, comme dans la première image, eh bien la nappe, vous voyez, elle est très proche du système racinaire végétal et elle permet à des écosystèmes qui ont des besoins hygrophiles, des besoins d'humidité, d'eau, comme la prairie, de se maintenir. Lorsque vous drainez, accélérez, incisez la rivière, l'incision c'est le nom du processus hydrogéologique par lequel la rivière plonge verticalement. Imaginez une cuillère qui vide un pot de glace jusqu'à toucher le fond du pot de glace. La rivière elle fait ça dès lors qu'elle est corsetée, je vous épargne les raisons parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. La rivière se creuse parce qu'elle est vidée, drainée, exploitée en termes d'exploitation de granulats. Et parce qu'elle est prise dans l'aménagement de l'aire du drainage. Et à ce moment-là, ce qui est fascinant, regardez, c'est les pointillés, c'est la nappe. C'est la nappe qui plonge. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez des implications directes dans le monde visible, qui est celui de la végétation caractéristique de ce fond de vallée. Là où vous aviez de l'herbe, vous avez de la sauge. Sagebrush, les buissons de sauge, qui sont l'équivalent d'une végétation beaucoup plus xérophile. Si jamais on se baladait dans ces milieux, on ne verrait pas ça parce que le comportement de la nappe et les rapports nappe-rivière sont assez invisibles. Si vous laissez la rivière plonger, c'est toute la nappe qui plonge. Et si la nappe plonge, eh bien, la végétation change. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans le manuel de Krebel et Pillsbury, 1934, il propose des techniques low-tech pour permettre à la rivière d'aggrader son matelas alluvial, c'est-à-dire de se remonter, plutôt que de se creuser, de déposer du sédiment pour remonter, et ce faisant, le matelas remonte, la lame d'eau remonte, et la nappe remonte, et vous pouvez, ici c'est des programmes de restauration, restaurer les milieux qu'elles accueillaient. Ça c'est fondamental parce que c'est par là qu'on comprend pourquoi les rivières réelles ce sont des hydrosystèmes, c'est-à-dire c'est l'ensemble des milieux impactés par les écoulements. La nuance qu'on ajoute techniquement c'est hautes eaux, mais oubliez cet élément-là. Mais vous voyez, le seul trait bleu sur la carte n'est pas l'essentiel de la rivière, puisque il y a des effets invisibles qui se jouent, notamment dans les rapports nappe-rivière. Et à nouveau, qu'est-ce qui est fascinant dans cette affaire? C'est que notre animal, pas si charismatique, eh bien, produit des effets assez décisifs concernant ce genre de questions. Ça, c'est une aquarelle de Suzanne que j'adore, qui essaie de figurer par la peinture les résultats d'une étude scientifique qui est contextuelle, donc il ne faut pas la prendre au pied de la lettre ou l'universaliser. Et c'est une étude qui montre le comportement d'une goutte d'eau sur un linéaire de rivière qui est évalué sur 2,6 km², mais imaginez une même section de linéaire avec 100 castors, avec une rivière drainée, accélérée, ici en particulier, en plus rectifiée. Et puis, un cours d'eau analogue et la même goutte d'eau sur la même distance, avec un milieu castor, avec des ouvrages castor fonctionnels. Et là, ce que montre l'étude, c'est que dans une rivière sans obstruction, la goutte d'eau met 3 ou 4 heures pour aller du point A au point B. Et dans une rivière dans laquelle il y a des barrages de castor fonctionnels, la même goutte d'eau, elle met entre 9 et 20 jours pour aller du point A au point B. Ça s'appelle augmenter le temps de résidence de l'eau sur la Terre. C'est le pouvoir magique, mais de magie parfaitement naturelle, des castors. Et la raison pour laquelle il est décisif, c'est que vous le sentez. Si l'un des drames qui a généré sécheresse systémique et risque d'inondation, c'est d'avoir accéléré, évacué l'eau et la faire ruisseler, eh ben, toute puissance vivante qui augmente son temps de résidence sur la Terre joue un rôle clé pour nous accompagner dans des alliances pour faire face au bouleversement du changement climatique. Je vous montre l'équivalent de l'image de Pillsbury. Ça, c'est une image qui est clé pour moi. Ce qui vous manque en haut, c'est Bridge Creek, suivi 2009-2015. On est dans un cours d'eau qui a été soumis à un projet de restauration inspiré des castors. Donc on va mimer l'activité des castors. Donc c'est ici, l'activité des castors et l'activité des humains se confondent. On fait des comparaisons, l'article c'est Pollock et al. En 2014, des comparaisons en contexte de pluviométrie analogue, et ben, vous voyez, ça devrait vous sauter aux yeux. Il y a un concept en américain pour nommer ça, ça s'appelle greenness resiliency. Vous êtes à la même période de l'année, à pluviométrie analogue, et vous avez un milieu, le même milieu qui est beaucoup plus vert. Le concept de greenness resiliency a été formulé essentiellement par Joe Witton. Et l'idée est très simple, c'est qu'on est capable de mesurer que dans beaucoup de milieux castors, modulo la conductivité hydraulique du substrat minéral, toujours, eh bien, quel que soit le degré de sécheresse, vous n'avez pas d'impact sur la productivité végétale. C'est-à-dire que le milieu s'autonomise du manque d'eau de pluie pour générer de la photosynthèse et donc créer de la biomasse, créer de la végétation. Greenness Resiliency, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de monitorer en France dans les projets où on fait ça, parce qu'il y a quelque chose de vraiment clé à montrer ce genre d'effets, mais qui sont des métriques un peu difficiles à penser. Donc là, c'était pour explorer le rapport de ces animaux avec les enjeux de sécheresse qui sont, un, liés à l'histoire de l'aménagement où on a asséché les sols, on les a rendus incapables d'infiltrer l'eau, et amplifiés par le changement climatique. Et la capacité de l'action spontanée de cet animal à, non pas, soyons honnêtes, résoudre les problèmes de sécheresse, ça n'arrivera pas, les castors ne nous sauveront pas des sécheresses, mais à atténuer certains effets des sécheresses, dont le travail, des animaux dont le travail spontané s'allie avec les besoins du milieu rivière en général et des sociétés humaines, et moi j'ajouterais des sociétés humaines qui ont bifurqué concernant leur économie extractiviste. J'ajoute cette nuance clé. Castor et sécheresse. Ça, c'est les modèles d'Emily Fairfax à nouveau et bon, de toute l'équipe de scientifiques dont on s'inspire massivement avec Suzanne. Ça, c'est une image que je trouve aussi décisive. À nouveau, je ne peux pas rentrer finement dans la science, mais je voudrais peupler votre imaginaire d'autres images. Je voudrais troubler vos imaginaires du castor en y ajoutant des mondes qui n'y sont pas, pour changer la nature de la conversation sur cet animal et sur la gestion des rivières, l'accompagnement des rivières, sur la question du changement climatique. Donc c'est Bow Creek en Idaho, juste après un méga-feu. L'image elle est assez symptomatique. Vous avez le linéaire de rivière qui est dans le vallon, vous avez les coteaux complètement brûlés. Au nord, là où vous distinguez une route et une voiture, sur la droite, vous avez le linéaire de rivière qui est complètement brûlé, qui remonte dans le vallon complètement brûlé, et là, vous avez une oasis. Bon, je crois que vous connaissez la conclusion de l'histoire. C'est un milieu castor. C'est un milieu façonné par les castors. Il y a des effets de résilience à l'égard des incendies générés par les milieux castors qui sont significatifs, parfois de tampons, parfois de ralentissement, et dans tous les cas de refuge pour la faune et la flore, qui vont permettre au moment des méga-feux à ce que la faune puisse se retrouver dans ces milieux et à ce que faune et flore, après le feu, puissent aller recoloniser, retourner, comme dit Rémi, plus que recoloniser, je suis d'accord avec lui, coloniser, c'est vraiment pas la bonne métaphore pour parler du vivant, et aller, plutôt que ce soit des invasives qui, dont certaines peuvent être problématiques, ça fait des refuges de vie pour aller réensemencer ces milieux qui ont brûlé. Moi, ce qui me bouleverse dans cette image, c'est, je ne sais pas si vous sentez, c'est qu'il y a vraiment un imaginaire de la chute, en fait, du paradis et de la chute. C'est presque un tableau, en fait. Et ce que ça dit, ça dit des choses profondes, et ça dit ça à votre corps animal, parce que vous et moi sommes des primates et des mammifères et des vertébrés, et il y a 360 millions d'années, on vivait dans l'eau. Et donc nos corps se souviennent de quelque chose d'important dans les relations entre la vie et l'eau. Et ce que vous sentez dans ces images, c'est ça. Et je vais en parler un peu plus loin. Pareil, je ne peux pas y rester des heures non plus, mais je dis quelques mots. Ça, c'est une étude de Alan Puttock et de son équipe de l'université d'Exeter sur un site fascinant qui s'appelle la Otter River dans le Devon, en Angleterre. Donc, on est chez Castor Fiber et ce sont des milieux anglais, ce sont des milieux européens. C'est de l'hydromorphologie et de l'écohydrologie européenne. Et c'est un monitoring de deux choses. La capacité des milieux castors à écréter les vagues de crue avec un inlet, un outlet, c'est-à-dire il met des instruments de mesure en amont des ouvrages castors, en aval des ouvrages castors, il regarde la quantité d'eau qui rentre, la quantité d'eau qui sort, la vitesse de la vague de crue, et il regarde ici les pollutions. Et vous avez des effets fascinants, toute la littérature est disponible, tapez Beaver Otter River sur Internet, vous allez voir, tous les documents sont là. Il y a des effets d'écrétage de crues jusqu'à 60% des vagues de crue pour les crues petites à moyennes. Et puis il y a des effets fascinants de l'activité spontanée du castor sur de la dépollution, avec des effets visibles sur le pH, sur le sédiment suspendu, nitrogène et phosphate, c'est-à-dire les grands enjeux de pollution et d'eutrophisation ici agricole. Il faut savoir que la question du castor aux États-Unis, de la réintroduction du castor, de s'inspirer du castor pour régénérer les milieux, elle est massivement pilotée, et depuis 2009, par des enjeux piscicoles. Aujourd'hui en France, on entend beaucoup « Ah oui, mais le problème, c'est que le castor, quand il travaille sur les milieux ou quand on s'en inspire, on va casser la continuité piscicole pour les truites, c'est problématique pour les poissons. » En vérité, ces modèles ont été pensés pour les poissons, pour l'abondance et la diversité des poissons. Ça, c'est un article fascinant. Alors, à nouveau, on n'a pas la référence, on a l'air fin. C'est Bouves et al., B-O-U-W-E-S. À nouveau, si ça vous intéresse, c'est dans le livre. Sur la capacité des milieux castors à augmenter l'habitat pour les poissons, et en particulier les poissons anadromes, et en particulier les salmonidés. Il y a des dizaines d'articles là-dessus, c'est totalement établi. Et nous qui faisons qui nous inspirons du castor dans la Drôme pour régénérer des milieux, on a déjà des effets de ce genre, on voit des retours de truites, on voit des frayères un peu partout, on voit des quantités, des densités qu'on n'avait jamais vues. Un tout petit point qui n'est pas du tout anodin, pardonnez-moi, j'ai pas pris le temps de le traduire, c'est le résultat de l'étude de Nick Bouves, en l'occurrence, c'est sur la capacité des truites ici à passer le barrage de castor. Ça a été monitoré, ils ont réussi à pit-taguer, c'est-à-dire à mettre des marqueurs de géolocalisation sur 78 000 truites, ça c'est America is great quand même. Et ils ont réussi à montrer la capacité de ces animaux à passer les ouvrages de castor. 200 barrages à la descente et jusqu'à 40 barrages à la montée, et même pour les petits, pour les alevins. Ça, c'est vraiment très important parce que finalement, ça permet aussi de questionner un des enjeux majeurs aujourd'hui de la restauration des rivières, qui est la question de la continuité. Pour des raisons complexes, on a construit une politique de restauration qui est tout entière tournée vers la continuité. À certains égards, d'un point de vue, on va dire, de lutte, c'était nécessaire parce qu'en fait, en face, il y avait des adversaires colossaux qui sont les lobbies des barrages et des seuils et d'une diversité de structures artificielles dans l'eau qui sont effectivement très problématiques pour l'écologie des cours d'eau. Et donc, pour justifier, parce que les communautés de la restauration étaient tout simplement minoritaires face au pouvoir des lobbies des barrages, il y a un discours qui s'est créé sur la nécessité d'une continuité absolue. Et c'était le pan critique de cet argument est juste. Le problème, c'est que la continuité absolue, eh bien, ça fait effectivement passer l'eau vers l'aval, ça fait effectivement remonter les poissons vers l'amont, mais ce n'est pas habitable. Et donc aujourd'hui, dans l'hydromorphologie la plus pointue, on parle de river discontinuum. La rivière, c'est un discontinuum. Mais les discontinuités ne sont pas des seuils et des barrages. Attention, ce n'est pas du tout un argument récupérable par les syndicats de l'hydroélectricité s'ils sont dans la salle. Je suis désolé, messieurs. Il ne s'agit absolument pas de pouvoir justifier par là les politiques de maintien ou de construction des structures de béton dont il est absolument prouvé qu'elles sont dramatiques dans une large mesure et dans beaucoup de contextes pour les milieux. Non, la clé, c'est que les discontinuités qui enrichissent un cours d'eau sont des discontinuités naturelles, ce sont les discontinuités avec lesquelles le cours d'eau a coévolué. Et en l'occurrence, un des exemples clés, c'est dans un très grand nombre des écosystèmes, des hydrosystèmes français de petites rivières, des barrages de castors et des amas de bois, puisque souvenez-vous, ici on est dans la grande forêt européenne. Avant qu'on coupe tout, il y avait de la forêt partout et donc il y avait du bois partout dans les rivières et ça faisait de l'habitat, de la perturbation mobile et de l'infiltration, de la réhydratation, de l'enrichissement de milieu. Et donc la clé, c'est Kevin Swift qui est un de mes mentors américains qui défend ça, c'est de se rappeler que la continuité absolue pour l'eau, le sédiment et les poissons, en fait, c'est défendable comme on pourrait défendre une autoroute. Il dit, si vous vous concentrez uniquement sur la continuité des rivières, vous avez un milieu qui est soigné, mais qui est simplifié, rapide et efficient. Et néanmoins, il est stérile et inhabitable. Et sa métaphore, c'est qu'est-ce qui est parfaitement continu ? C'est une autoroute. Dans une autoroute, tout passe, mais qui d'entre vous veut habiter sur une autoroute ? Et Kevin est un Américain de Californie. Donc ce sont ses diapos, ce ne sont pas les miennes. Je les ai récupérées, ces deux-là, de son PowerPoint. Il voulait faire honneur à la France et donc il voulait prendre une métaphore que nous allions comprendre, nous les Français. Et donc il a dit, d'un côté, vous avez les autoroutes, c'est très continu, mais ce n'est pas habitable. Et de l'autre, vous avez l'idéal de ce que mériterait d'être une rivière. C'est un petit village français. Dans un petit village français, si vous vous concentrez sur l'habitat cette fois, vous avez un milieu qui est désordonné, qui est complexe, qui est lent du point de vue de l'acheminement de l'eau, qui est inefficace du point de vue strictement hydraulique, mais qui est florissant, qui est prospère en termes de vie, qui est une sorte de riche mosaïque d'habitat, et c'est là que c'est fascinant, avec une meilleure continuité comme sous-produit inévitable. Ça, c'est des choses dont je parlerai tout à l'heure. Et maintenant, je vous retraduis autoroute et petits villages dans le monde des rivières. Ça, c'est la LA River. Voilà, parfaite continuité. Continuité sédimentaire, continuité hydrique, parfaite. Ça, c'est un cours d'eau façonné, travaillé, transformé par des castors. Complexité, lenteur, inefficacité hydraulique, mais temps de résidence de l'eau long, continuité multiple. Et ça, c'est montré, c'est où vous avez la possibilité pour le sédiment, pour l'eau et pour la vie de circuler. Par une grande diversité, notamment de chenaux latéraux qui sont ici figurés, que vous voyez là-bas, dans le temps, même dans les structures elles-mêmes. Donc, j'ai exploré la question castor et sécheresse, castor et feu. J'ai parlé brièvement castor et inondation. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, ça aurait pu être intéressant, mais en fait, il y a tout un monde et je n'ai pas le temps. Et puis là, je parle de castor et biodiversité, diversité de la vie. Là, ce qui me fascine, c'est... aujourd'hui, pendant le colloque, on a entendu deux conférences vraiment fascinantes, par Cécile, c'est Auberçon, je crois, et Olivier Kinn. Je suis désolé pour vos noms, mais j'espère que je ne suis pas trop loin. Et dans tous les cas, pardonnez-moi, merci. Vraiment des talks fascinants avec des programmes de suivi, de monitoring vraiment pointus de la biodiversité. J'ai beaucoup de gratitude pour vous parce que nous, c'est des choses qu'on essaie de faire, de porter en France. Et en fait, on a beaucoup de mal, on n'y arrive pas. Et vous, vous l'avez fait de manière splendide. C'était vraiment très complémentaire. Et il y a quelque chose qui émergeait, en particulier dans les deux approches, des effets sur la biodiversité en termes espèces spécifiques, donc nombre d'espèces, et en termes d'abondance, qui étaient des facteurs multiplicatifs, avec des facteurs multiplicatifs d'ailleurs dont il faudra qu'on parle, Cécile, parce que ça me fascine, les x6 en espèces, x60 en abondance, parce que là, la question clé, c'est de quelles abondances on parle. Mais dans tous les cas, nous, on a ça dans toute la littérature américaine aussi, et on a ça dans la littérature d'Alan Puttock en Angleterre. Quand le castor revient sur un milieu, vous avez des effets de blooming océanique, vous avez la vie qui revient, elle explose. Elle explose en diversité, elle explose en abondance. et pourquoi ? Alors ça, c'est quand même fascinant. Pourquoi ? Eh bien, pour comprendre ça, il faut s'éloigner un petit peu du futur le plus angoissant des bouleversements climatiques, et il faut aller prendre du recul sur le très long passé de la constitution de nos milieux. Le point de l'affaire, c'est pourquoi est-ce qu'on a toutes les raisons de faire confiance à la capacité du castor ou d'humains inspirés du castor à faire prospérer la vie dans les milieux qui transforment, pour une raison assez simple qui a à voir avec la logique du vivant, qui est une logique du temps profond. Et cette logique du temps profond, ça s'appelle la coévolution. Pour le dire simplement, depuis au moins 8 millions d'années, Castor Fiber construit des structures qui aménagent le milieu par ralentissement, infiltration, hydratation, complexification des milieux de fond de vallée européens, en particulier les petites rivières et certains aspects des plaines alluviales. Le castor ne construit pas, même quand il était là, il ne construisait pas partout. Il ne construit pas sur les grands fleuves, il ne peut pas par exemple, il ne construit même pas sur les grandes rivières comme la Drôme chez nous, mais par contre il est capable de construire sur les bras latéraux, dans les lits majeurs des grands fleuves, et en particulier dans le chevelu, dans les têtes de bassin versant, sur toutes les petites rivières. Il était là, il constituait ce qu'on appellerait aujourd'hui des zones humides. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du castor en France, en Europe, on a très peu de données, mais on a des estimations aux États-Unis sur avant éradication. Eux, ils ont éradiqué le castor il y a 150 ans, essentiellement par la trappe, c'est-à-dire le commerce des fourrures. Le commerce des fourrures a gouverné l'histoire américaine pendant 150 ans. Il est à l'origine du premier, de la percée du capitalisme américain. Le premier multimillionnaire de l'histoire humaine s'appelle Astor. Sa fortune, c'est de la peau de castor. Le premier gratte-ciel de l'histoire de l'humanité, c'est l'Astor à Waldorf Astoria, puis Astoria, peu importe, à New York. Il est construit avec de la fortune faite en peau de castor. On a des estimations entre 40 millions et 600 millions de castors éradiqués en 150 ans aux États-Unis. En France, c'est assez compliqué. Vous verrez dans le livre, je fais des tentatives d'extrapoler, de modéliser combien de castors il y a pu y avoir avant transformation massive des hydrosystèmes. Je fais une estimation qui me semble très prudente. Je parle juste de la France, pas de l'Europe. Hein, 300 000 et 3 millions d'individus. Mais la clé de l'affaire, c'est que ces individus ne sont pas juste des jolis rongeurs posés sur le paysage. C'est que ce sont des ingénieurs hyperactifs et que dans leur activité spontanée, ils transforment le faciès du milieu, ou pour le dire autrement, ils transforment la diversité des habitats, les styles d'écoulement, le type de succession végétale, c'est-à-dire qu'ils façonnent littéralement le village. Imaginez un animal qui est omniprésent en nombre. Il est là depuis 8 millions d'années et il n'est pas seulement là, il façonne le monde, il construit le village. Si ça dure 8 millions d'années, il y a une logique du vivant qui est très claire, c'est que la vie va s'adapter à... La vie multispécifique va s'adapter à cette architecture. Les truites vont s'adapter de manière à ce qu'elles prospèrent dans cette architecture. Les amphibiens vont s'adapter sur des millions d'années de manière à prospérer dans cette architecture. Les odonates, les invertébrés. Toute la vie des fonds de vallée, dans ces contextes, va s'adapter à l'architecte. Et imaginez qu'à partir de 1200 et sur quelques siècles, vous éradiquez brutalement, à l'échelle des temps géologiques, cet animal. Vous éradiquez l'architecte. On a toutes les raisons de penser que des formes de vie, des taxons, des cortèges, des communautés biotiques qui s'y sont adaptées vont se retrouver orphelines de l'architecte qui construisait leur village. Et là, ça devient beaucoup moins mystérieux que lorsque le castor revient ou lorsqu'on s'en inspire. On a des effets de blooming en termes de diversité et d'abondance du monde vivant, parce que les cortèges de vie des fonds de vallée, dans beaucoup de contextes, ont coévolué avec cet architecte et donc elle prospère quand il est là, elle prospère quand il revient, elle prospère quand les milieux ressemblent à ce qu'il en fait. C'est une manière de raconter l'histoire et de donner la logique du temps profond, la logique du vivant, à ces résultats assez fascinants qui sont très enthousiasmants de retour de la biodiversité lorsque le castor arrive. Maintenant, je voudrais conclure. Donc, on a exploré les enjeux du futur avec cette question de l'incertitude induite par le changement climatique, de l'amplification des bouleversements. On a exploré un petit peu le temps profond avec notre amnésie environnementale sur le fait que les rivières européennes, une grande partie des rivières, des fonds de vallée, ont été façonnées, transformées, travaillées par un architecte qu'on a éradiqué. Et maintenant, je voudrais revenir au présent sur la question pratique de l'action et de qu'est-ce que ça veut dire agir dans un monde incertain. Qu'est-ce que ça veut dire agir sur les milieux quand on hérite de siècles de destruction du monde vivant et quand on est face à des bouleversements écologiques qui sont ceux du changement climatique. Pour moi, c'est une des questions majeures du XXIe siècle. Elle est très difficile. Elle est très difficile, ne serait-ce qu'à poser. Aujourd'hui, dans le monde de la conservation, cette question est tellement complexe que ou bien on se rabat sur le passé, on veut essayer de maintenir le passé, ou bien on essaie juste de faire face au changement climatique. Mais la tentative de tenir les deux ensemble est extrêmement difficile. À mon sens, l'un des projets les plus matures quant à faire ça, il a cette forme, ça s'appelle Low Tech Process Based Restoration. Et il est porté, bah ça c'est une image de Joe, il est moins beau que ça dans la réalité. C'est un de mes mentors sur ces questions, c'est un géomorphologue fluvial. Et c'est un des penseurs de cette nouvelle pratique de la restauration. À la lumière de toutes ces sciences dont je vous ai parlé, où des éco-hydrologues américains vont montrer que l'activité spontanée des castors atténue les sécheresses, atténue les vagues de crue, fait du refuge et des oasis pour la diversité de la vie, et confronté, lui, dans la communauté de la restauration des rivières, parce que lui, à l'origine, c'est un ingénieur, c'est un spécialiste de restauration des rivières, au fait que, quels que soient les énormes budgets américains pour restaurer les rivières, non seulement il n'y a pas suffisamment d'argent pour prendre soin des dizaines de milliers de kilomètres de linéaires de rivières dégradées, mais en plus, dans la tradition classique, ils le font avec des tractopelles en brûlant un pétrole qu'il ne faudrait pas brûler pour ça et qu'il ne faudrait pas brûler en soi. Eh bien, ils ont imaginé une nouvelle approche, un nouveau paradigme dans la régénération des cours d'eau qui est très beau parce qu'il fait bouger des lignes philosophiques, politiques majeures dans notre rapport à nos milieux de vie. Ça s'appelle la régénération fondée sur les processus et low-tech, low-carbone, technologie rustique et bas-carbone. Je ne vais pas m'apesantir indéfiniment là-dessus. J'aurais tellement aimé vous parler de ça, mais je ne peux pas vous en parler. Ah, je veux vous dire deux mots là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose de clé. L'originalité de Joe et de son équipe, Nick Schaff-Sheridan, Nick Bouvus, mais c'est toute l'équipe des Beaver Believers américains, Michael Pollock, Kent Woodruff, c'est qu'ils ont proposé une nouvelle hybridation fascinante pour penser la restauration des cours d'eau. Moi, je l'ai vécu, la première fois que je l'ai entendu, j'étais sur le terrain dans une petite rivière de Sacramento qui s'appelle Doty Ravine, qui était un petit cours d'eau vraiment pourri, qui faisait un mètre de large dans une plaine complètement dégradée et asséchée. Et Damien Ciotti, Kevin Swift, toute une équipe ont commencé à imaginer s'inspirer du castor pour faire des premières structures, ce qui a fait remonter l'eau, fait revenir l'eau, ce qui a fait revenir le castor, qui a repris en charge le processus de restauration, et maintenant, c'est une oasis de vie fascinante. Et Damien était avec moi sur le cours d'eau, on était avec Suzanne, et Damien, il réfléchissait, il me dit, mais moi, je suis ingénieur. Et en fait, à l'origine, on m'a appris à réparer les milieux, comme si c'était des machines, comme si c'était des machines inertes et passives. Et il dit, mais là, en fait, ce qu'on fait ici, c'est plus du tout la même chose. Et je le vois réfléchir, et il dit, c'est pas de l'ingénierie, ce que je fais, c'est pas de l'ingénierie. Il dit, c'est de la médecine. Et pourquoi c'est de la médecine ? Parce qu'on ne va pas réparer les fonctionnalités d'une machine cassée, on va réactiver les capacités d'une entité vivante à se guérir d'elle-même. On revient au paradigme fondateur de la médecine, au paradigme originel, qui n'est pas la médecine mécaniste tardive. Et dans cette médecine, on va considérer que la rivière, le milieu rivière, le riverscape, la rivière vivante, a une capacité à s'auto-régénérer dès lors qu'on lui restitue les conditions nécessaires de sa santé. Et voilà les conditions de sa santé, les quatre principes de la santé des milieux rivières. Premièrement, les rivières ont besoin d'espace, c'est la base, c'est la clé. S'il n'y a pas d'espace pour les rivières, il ne peut rien se passer. Et on est condamné à vivre avec la LA River, ou des canaux, ou des drains agricoles. Le deuxième principe, il est fascinant, c'est les structures dans la rivière, que ce soit des ouvrages de castor, du bois qui s'accumule, engendre de la complexité qui crée de la résilience. C'est parce qu'il y a une richesse et une diversité de structures que la rivière gagne en complexité, et c'est parce qu'elle est plus complexe qu'elle a une résilience, c'est-à-dire une capacité à maintenir la vie en elle malgré les perturbations et les stress. Sécheresse, inondation. Je ne rentre pas là-dedans, il y a des enjeux philosophiques et scientifiques majeurs, mais je n'ai pas le temps. On écarte le troisième principe, puisque le troisième principe, il est très beau, en une phrase il dit « D'accord, mais tout dépend, ça dépend, ça, c'est très important, c'est la seule chose toujours vraie en théorie et pratique du vivant, tout dépend. Rassurez-vous, il y a un truc toujours vrai, c'est que ça dépend. Et quatrièmement, ça c'est fascinant, l'inefficacité dans l'acheminement de l'eau est souvent gage de santé. Donc on parle d'inefficacité au sens hydraulique. L'efficacité hydraulique, c'est la vitesse et la fluidité avec laquelle vous êtes capable de transporter un fluide d'un point A à un point B. Et nous, on est des civilisations de l'efficacité hydraulique dans nos tuyaux, de l'efficacité de la circulation sur les périphes et sur les autoroutes dans le TGV. On est obsédé par l'efficacité de la circulation des flux. Et en fait, le monde vivant n'est pas d'accord. Dans le monde vivant, c'est l'inverse, et en particulier dans ses rapports à l'eau sur les continents, l'inefficacité dans l'acheminement de l'eau est souvent un gage de santé. Vous vous souvenez, c'est la différence entre l'image de la LA River et des milieux castors ou d'une autoroute et d'un petit village français. Je peux vous donner un autre exemple qui n'est pas du tout anodin. C'est que, imaginez qu'un hydraulicien de génie, un très bon mathématicien, ait designé votre corps de manière à optimiser l'acheminement de l'eau d'un point de vue hydraulique. Ça a un nom. Ça s'appelle la diarrhée fulgurante. Pour chaque goutte d'eau que vous ingérez, en une fraction de seconde, elle disparaît de l'autre côté. Pourquoi votre corps fonctionne et pourquoi il est vivant ? Parce qu'il est profondément inefficace dans l'acheminement de l'eau et merci. Le corps vivant d'un humain, d'un mammifère, d'un animal, d'un végétal est analogue en ce sens à un milieu rivière, même si un milieu rivière n'est pas un organisme, c'est que dans les deux cas, l'inefficacité dans l'acheminement de l'eau est un gage de santé. Et si on peut poser la question de ce que c'est qu'une rivière en termes de santé, ça veut dire qu'on peut penser à la question de nos pratiques en termes de guérison, de soins. Juste, je viens sur celle-là parce que je la trouve extrêmement intéressante. Dans la régénération Castor, régénération low-tech fondée sur les processus qu'on est en train de porter en France, qu'on est en train d'amener avec Suzanne, qu'on a déjà expérimenté dans la Drôme depuis 2 ans avec le service GEMAPI de Valence-Romont-Aglo et son technicien de rivière, sur lequel on réfléchit beaucoup avec des hydromorphologues, des hydrologues aussi. Dans ce paradigme, en fait, on ne veut surtout pas se substituer aux capacités de la rivière à se guérir et on ne veut pas non plus se substituer au castor. Donc dans tous les contextes où le castor n'est pas là et ne peut pas être là mais pourrait revenir, eh ben, ce qu'on cherche, ça c'est un article de Ben Goldfarb qui a été publié dans Science, c'est ce qu'on appelle des systèmes autonomes, des systèmes qui s'autonomisent. Donc on hérite d'un cours d'eau incisé, simplifié, asséché. Vous voyez, la nappe a plongé très bas, le milieu est complètement asséché. On va commencer à proposer, par exemple, des structures qui imitent les barrages de castor, qui sont positionnées de manière très fine et très judicieuse. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Ça exige vraiment de lire la rivière. Ce faisant, on va produire des effets d'aggradation sédimentaire, de complexification. Le milieu va se réhydrater. La ressource ligneuse, parfois de saules, parfois de peupliers, mais parfois c'est même pas nécessaire, est susceptible de réapparaître. Et là, les castors, on fait de l'hospitalité active pour les castors qui sont susceptibles de revenir, de reprendre en charge le système et de continuer notre projet de restauration. Pour l'anecdote, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un site dans la Drôme avec Cédric Cadet, le chef de projet technicien de rivière. On a fait des structures c'est très émouvant pour nous parce que c'est très beau et parce qu'on travaille dans l'eau, sans machine, sans tractopelle. Et on a construit des structures, on a fait un milieu d'une complexité, d'une richesse incroyable, vraiment, qui ressemble à certains égards à ça, en beaucoup plus petit. Vous divisez par 10, et ça ressemble à ça. Et je vous le dis, bon, j'espère que je ne vais pas me donner la poisse. Il y a 8 jours, je trouve des indices de castor sur notre site, dans le bassin qu'on a nous-mêmes façonné, avec une entrée de terrier et du bois rongé et des bois coupés. Donc il est là depuis quelques jours. Et ce qui serait vraiment magique pour nous, c'est qu'ils reprennent en charge le projet de restauration. Comme ça, on pourra aller boire des cafés. Et puis qu'on puisse continuer avec lui la conversation quant à comprendre comment on peut amplifier la vie dans ces milieux, comment on peut régénérer ces milieux, pour en même temps nous permettre de traverser de manière moins solitaire les turbulences du changement climatique. Et je vais en rester là pour qu'on puisse discuter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif.
Bon. Bonjour, Étienne, paysagiste. Et du coup, j'aurais besoin que vous finissiez votre exposé sur la manière dont, précise dont on dispose les troncs à la perpendiculaire ou en diagonale. Là, je ne sais pas, on ne voyait pas trop. Pourquoi ? Mais en tout cas, là, vous avez potentiellement de futurs castors. Donc, autant leur montrer comment coller peut-être, je sais pas.
En fait, si je vous montre comment on met les troncs, ce sera absolument pas suffisant pour que vous deveniez un castor décent. Si vous voulez devenir un castor décent, on organise des formations avec les praticiens de régénération américains qui viennent en France. Ils sont venus avec l'ARA, l'Association des rivières Rhône-Alpes, en avril dernier. D'ailleurs, il y a des copains ici qui y étaient, qui ont accueilli ces formations. Ils reviennent cette année, ils vont probablement revenir. Ils reviennent en avril. Il faut aller sur le site de l'ARA, A2RA. Et on va probablement même proposer une formation de ce type-là en Suisse à l'automne. J'en ai parlé avec Suzanne tout à l'heure. Si jamais ça peut se faire avec un autre praticien. Donc je pourrais vous en parler beaucoup plus finement techniquement, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais dans tous les cas, ce ne serait pas suffisant, parce qu'il y a, quelque chose de très beau dans ces pratiques, c'est qu'elles permettent ce que j'appelle un reclaim habitant du droit à prendre soin de nos milieux de vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un doctorat en hydromorphologie pour rentrer en relation avec la rivière. Par contre, il y a un coup d'entrée, c'est qu'il faut apprendre à lire la rivière. Il ne s'agit surtout pas de faire n'importe quoi. Il ne s'agit surtout pas de faire les choses sauvagement ou de manière illégale. Parce que sinon, en fait, on peut produire des effets ou nuls ou contre-productifs sur le fonctionnement du cours d'eau. Notamment sur la position des ouvrages, sur la lecture des maladies de la rivière. Ben, en fait, voilà, il n'y a rien de pire qu'un mauvais médecin, quoi. Il vaut mieux pas de médecin du tout.
C'est pas une question, je voudrais insister sur quelque chose que Morisot a présenté. Pour ceux qui sont moins familiarisés avec la biologie, il y a une formule très fameuse qui était le titre d'une publication d'un grand spécialiste d'évolution. En biologie, il n'a rien à de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc, cette idée, c'est parce qu'il y a des millions d'années de coévolution que c'est un tel enrichissement biologique. Par exemple, j'ai lu une étude sur une synthèse en Bavière. Ils estiment que les deux tiers des espèces de libellules, 80% des espèces d'amphibiens, les milieux optimums de reproduction, c'est les barrages de castor. Alors, je dis ça parce qu'il faut se méfier pour avoir une dérive très regrettable. Il y a eu des cas, parmi il y a des gens en lutte biologique qui ont voulu introduire une coccinelle pour lutter contre les pucerons parce qu'elle était plus efficace, mais elle n'était pas du tout du coin, l'Extrême-Orient. Résultat, elle ravage toute la faune de coccinelles locales. Et bien, pour le castor, pour gagner de l'argent, il y a des gens qui ont cru très malin, à la fin des années 40, d'introduire, et pas de réintroduire, du castor dans le sud de l'Amérique du Sud, en Argentine et au Chili, où il n'y en avait jamais eu. Et comme il n'y a pas de coévolution, et ben c'est une catastrophe écologique. Ça fait comme le lapin en Australie. C'est pas en soi le castor ou en soi le lapin. C'est une espèce qui peut avoir un impact, mais dans un contexte où il y a un long passé évolutif, et bien si on la met ailleurs, c'est le... Au contraire, c'est une catastrophe, quoi.
Amen.
Ouais, moi, je me demandais, comment est-ce que tu as arrivé à travailler avec tous ces Américains ? Enfin, non, pas que ce soit mal, hein, mais c'est vrai que je suis un peu curieuse de savoir, parce que tu as tous ces exemples qui viennent de l'Amérique.
Bien sûr. Non, mais c'est très bien, parce que ça va me permettre de faire un hommage à celle dont on est beaucoup à... On aurait aimé qu'elle soit là, Suzanne. Suzanne Husky, qui est une artiste franco-californienne, son fils avait son anniversaire avant-hier et ils habitent à San Francisco, donc elle n'a pas pu être là. Suzanne, c'est Suzanne en fait, qui est vraiment, qui a été au bon endroit au bon moment pour une raison très simple. Elle est artiste, donc elle a une liberté de penser sur ces enjeux d'écologie de rivière, et en même temps, elle est formée à des enjeux d'agroécologie. Et à des enjeux de sécheresse, parce qu'elle a fait une formation en agroécologie. Donc elle a les mains dans la terre, elle connaît les végétaux. Et puis elle se retrouve en Californie, où les enjeux de sécheresse sont absolument colossaux, comme vous le savez. Les enjeux de méga-feu sont colossaux. Et ça va lui permettre de rentrer en contact là-bas avec cette communauté fascinante de chercheurs, praticiens, ranchers, renégats, donc du l'Ouest américain, qui s'appellent entre les Beaver Believers, les croyants dans le castor. Ils sont pleins d'humour, hein. Ils sont bien évidemment pas mystiques, enfin pas tous, et qui est une communauté qui a une trentaine d'années maintenant, et qui se partage toute cette littérature scientifique, tous les savoirs locaux, les savoirs autochtones, et qui porte aussi ces projets de restauration. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a, quand on est allé enquêter en Californie avec Suzanne, on les a rencontrés. C'est devenu, pour certains, des amis. Suzanne, elle les connaît quasiment tous. Elle a fait un gros travail. Elle a fait des podcasts avec eux, elle les a enregistrés. Et donc, c'est aussi pour... Et par ailleurs, ils sont extrêmement généreux et disposés à partager leur savoir. Joe Wheaton, dont j'ai beaucoup parlé, qui est très important pour moi, c'est pour moi un grand penseur de la rivière vivante. Il est venu en France, il nous a accompagnés sur des sites. Kevin Swift, une sorte de génie sauvage des rivières, qui est un praticien, qui va faire la formation l'année prochaine, il est venu avec Kate Lundquist. Kate Lundquist, c'est celle qui a porté la campagne Bring Back the Beaver en Californie, sur 20 ans, là, qui ont fait un travail absolument remarquable pour permettre des politiques de réintroduction, des politiques de protection, et puis de porter ces enjeux castor et climat. Et donc là, ce qui se passe d'intéressant, c'est que le pont est fait, l'amitié, elle est faite. Et nous, on voudrait continuer à porter cet échange, ce dialogue avec eux. Ils sont disposés à revenir. On a réfléchi beaucoup à la question du coût carbone, et on a estimé que le coût carbone des voyages en avion pour qu'ils viennent nous former ou pour qu'on aille se former était dérisoire au regard de l'importance des savoirs et des savoir-faire qu'ils pouvaient nous apporter. Et donc, on espère que ça va pouvoir durer.
Enfin, je connais pas du tout la situation aux États-Unis, mais comment est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts, disons, à accueillir les castors, à accueillir ces effets écosystémiques sur les rivières, etc. Comparé à chez nous, peut-être tu as réfléchi en tant que philosophe aussi, ouais, un peu plus précisément là-dessus, mais c'est quoi les blocages chez nous ?
Ça, c'est vraiment fondamental. Question fondamentale. Alors, déjà, donc c'est très complexe, mais je vais essayer de le faire en 10 coups. Premièrement, les États-Unis, ça n'existe pas. C'est vraiment une très grande diversité de milieux, une très grande diversité de rapports politiques à la faune, au milieu en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les endroits où ça prend, c'est massivement dans des endroits qui sont frappés de plein fouet par les effets du changement climatique. Et ça, j'en reparle après, c'est décisif. Aux États-Unis, le castor n'est pas protégé. En France, le castor est protégé, l'habitat est protégé. Aux États-Unis, la méthode de gestion classique, c'est la gestion létale. Et l'alternative à la gestion létale, c'est la capture, la translocation. Donc ils sont dans un endroit très étrange, c'est que l'animal est beaucoup moins protégé qu'ici. Et en même temps, dans certains contextes, l'acceptabilité sociale est plus grande. La question de l'espace, elle revient tout le temps quand on compare, bien évidemment, la vieille Europe avec son anthropisation très ancienne et les États-Unis. Dans les cas qui nous concernent, elle est pas tellement décisive. Moi, aux États-Unis, j'ai bossé sur des milieux tout petits, des milieux très anthropisés. Et ces méthodes, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de travailler dans des milieux anthropisés. C'est aussi la diapo que tu as montrée sur les possibilités de cohabiter cet après-midi. La clé, elle n'est pas là. La clé, c'est où est le plus gros dragon ? Où est le dragon le plus effrayant ? Par exemple, nous, on a travaillé sur un linéaire de rivière dans la Drôme. Il y a 20 propriétaires fonciers, agricoles, non agricoles. Il y a 10 ans, si on arrivait en disant « Ah ben, on aime bien la biodiversité, on voudrait faire ce projet », tout le monde nous aurait ri au nez. Si on avait dit « Ah ben, on aime bien les castors », tout le monde nous aurait ri au nez. Si on avait dit « On veut guérir la rivière », tout le monde nous aurait ri au nez. Moi, j'arrive et je souris et je dis « Alors voilà, la rivière est malade, elle est incisée, déconnectée, simplifiée. Vous avez été confronté aux sécheresses de 2022, aux inondations potentielles qui arrivent. On ne parle pas trop de feu chez nous, mais dans certains contextes, ça fait sens. Le milieu n'a plus de résilience, il n'a plus de robustesse. Nous, on a des approches qui sont low-tech, bas carbone, réversibles, sûres, pas chères. Si ça ne marche pas, on les enlève. » qui vont rendre de l'eau à tout le monde, au milieu et aux usages humains. Vous dites quoi ? Et en fait, la sécheresse, c'est très puissant. La sécheresse, c'est un trauma qui traverse la barrière des espèces. Je dis ça régulièrement, je suis désolé, je vais me faire détester, mais je ne vais pas le dire comme ça. D'habitude, je dis même un Parisien, dans son appartement, quand il voit sa plante verte qui manque d'eau, il le sent. C'est quand même assez bouleversant. La séparation entre nous et les végétaux, c'est plusieurs milliards d'années. Et pourtant, en fait, on est capable de sentir le stress hydrique à travers la barrière des espèces. La sécheresse d'un milieu, la sécheresse d'une prairie, les arbres qui commençaient à fermer leurs stomates et à avoir de l'apoptose de feuilles au milieu de l'été, là, en 2022, on l'a tous vécu. Ça transcende aussi les barrières sociologiques. Les paysans, la sécheresse, c'est tripale pour eux. Et donc, quand on parle de sécheresse, et qu'on parle aussi, et qu'on explique les choses, il y a plein de contextes où les choses se dénouent. Et c'est Kevin Swift qui dit ça. Toi, ça peut te parler dans ton contexte. Il dit un castor, ça vous mange quelques arbres. Une sécheresse, ça vous détruit une civilisation. À vous de choisir.
Bonsoir. Alors, j'ai trois questions. La première, c'est pour toute restauration, souvent, faut qu'on fasse des papiers loi sur l'eau et loi espèces protégées, dès qu'on agit au niveau de l'eau. Et espèces protégées, je pense par exemple à l'écrevisse à pattes blanches. Donc quand vous faites cette technique, comment ça se passe pour toutes ces, pour les autorisations? La deuxième, c'est comment cette technique est acceptée par certains aménageurs? Je pense notamment, par exemple, une route, s'il y a une inondation, tout ça, par les barrages de vrais castors qui vont le faire, ça peut déranger sur les départementales, etc. Les agriculteurs aussi, comment vous abordez ça avec eux. Et la troisième, pourquoi vous dites que le castor n'est pas charismatique? Parce que je suis pas trop d'accord avec vous, dans le sens où, au contraire, ça peut être un levier pour faire un peu mieux accepter le castor, même si c'est pas du tout la première raison pour l'aimer. Mais je trouve qu'au niveau des enfants, ça passe bien de montrer la bouille du castor.
Ben, ça dépend de votre conception du charisme. Moi, j'ai travaillé sur le loup pendant 10 ans. Et donc, fatalement, moi, je partage une immense sympathie pour le castor. En plus, quand on a une connaissance intime de lui, c'est vraiment un animal extraordinaire. Mais vous le dites vous-même, c'est un animal qui est d'imaginaire infantile, voire infantilisé. Et ça, pour moi, c'est caractéristique d'une violence symbolique de la modernité tardive sur les animaux. Et dire que les animaux, c'est que pour les enfants, c'est des figures pour les enfants, c'est insultant pour les animaux. Et c'est insultant pour les enfants. Donc oui, il y a ce potentiel de sympathie qui est intéressant, important chez le castor. Et en effet, on peut l'utiliser. C'est une forme de charisme particulier. Voilà ma nuance. Sur la question des aménageurs, on va dire des aménagements plutôt. Parce que, en fait, il y a deux choses. Il y a la question de la présence du castor, de l'activité du castor. En France, lorsque le castor construit des structures et que ça produit des effets problématiques sur certaines franges de parcelles agricoles ou sur des routes ou sur des buses, c'est pas du tout pensé sous l'angle des problèmes de restauration, c'est pensé sous l'angle des problèmes de cohabitation. Et là, c'est les amis de l'OFB qui doivent gérer ces problèmes-là. Et notamment parce que les castors sont assez peu intéressés par le plan local d'urbanisme. Et donc là, il y a des grands enjeux de cohabitation. Pour moi, une des clés de ce que j'essaie de porter ici, c'est changer la nature de la conversation sur cet animal, sur les rivières, sur l'accompagnement ou la régénération des milieux et sur les rapports à l'eau d'une société. Mais changer la nature de la conversation sur un animal, ça ne veut surtout pas dire occulter les problèmes, parce qu'il n'y a rien de plus violent socialement qu'occulter les problèmes. Ça veut dire les relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des vrais problème de cohabitation avec le castor. Ça peut être localement très compliqué. Moi, j'ai des cas, je travaille avec des paysans dans des situations qui maintenant parfois les font rire ou qui les ulcèrent, mais c'est des situations dans lesquelles, lorsque le castor il a décidé de faire un marécage avec votre pré de fauche, il faut se lever tôt le matin, quoi. Donc là, il y a un énorme enjeu d'accompagnement des acteurs agricoles et du monde de l'aménagement sur la capacité à d'abord se protéger des prédations et des nuisances. Mais ça, c'est pareil. Aux États-Unis, il y a un cortège de techniques extraordinaires pour faire ça. Tout a été testé. Les travaux de Skip Lyle sur les beaver deceivers, qui sont un peu testés en France, les travaux de protection des arbres. Enfin, il y a 20 ans d'expérience sur les possibilités de cohabiter, de limiter les conflits d'usage. Et puis, sur les questions d'usage de la terre, de partage de la terre, là, à nouveau, il y a un enjeu social à accompagner comme société. Par exemple, les gens qui perdent des terres, les agriculteurs en particulier qui perdent des terres, ou les forestiers qui sont mis à mal par un castor s'ils n'ont pas réussi à protéger la parcelle de sylviculture. Et c'est un peu comme la question du loup sur ce point précis, c'est-à-dire c'est à la société de prendre en charge le soutien de ceux qui sont confrontés aux nuisances qu'il ne faut pas nier de certains animaux, mais qu'on va relativiser à la lumière des potentiels d'enrichissement du milieu qu'ils apportent. C'est aussi ce que j'ai compris du talk de notre ami belge aujourd'hui, Olivier, je crois. Et donc, changer la nature de la conversation, c'est quand on parle de castor, actuellement, quand on parle de castor, ou bien personne n'a jamais entendu parler, ou bien l'histoire qui sort, c'est « Ah ben, il a bouffé les arbres du grand-père », ah ben, il a ennoyé la route, ah ben, il a ruiné la parcelle. Et ça, en fait, ça crée ça profile la conversation dans une direction qui est celle du rapport moderne à la faune, à savoir ceux qui nous emmerdent, on les flingue. Changer la nature de la conversation, c'est que spontanément, des anecdotes qui viennent sur le castor puissent prendre en compte la puissance de ses effets hydrologiques, écologiques, et que ça nous permette de regarder en face et d'accompagner les gens qui sont confrontés aux nuisances, mais sans en faire un argument pour soutenir que la cohabitation est impossible. Et, pardon, je suis très long, dernier point. Et ben donc là, nous, on travaille, nous, on pense que c'est très important que l'acceptabilité sociale de ça soit maximale. Donc on fait tout dans les clous, dans les règles. On passe par le service GEMAPI, qui est en l'occurrence compétent pour faire de la restauration rivière, avec des chefs de projet qui font des demandes à la DDT, qui va évaluer les enjeux et qui va mobiliser des textes de loi, par exemple la 3350 actuellement dans certains contextes, qui va être validée ou non par l'OFB et qui va nous permettre de travailler dans des conditions administratives sérieuses et puis on va dire collectives.
Moi, en fait, j'ai besoin d'un conseil. Dans mon milieu professionnel, là où je travaille, je fais beaucoup d'éducation populaire. Ça arrive régulièrement de se retrouver devant des publics, comme tu disais, hétérogènes, où il y a souvent un joker concernant l'eau par rapport au réchauffement climatique. Je prends un exemple concret, un bureau d'études qui vient sur une commune exposer un projet sur des ouvrages, sur des barrages, sur d'éventuels projets. Et là, de toute façon, ça commence en général tout de suite par être très attaquant, et ces arguments de, voilà, le joker réchauffement climatique, il peut être utilisé à tout va, et en fait là, à ce moment-là, je me retrouve parfois bloqué, c'est-à-dire comment vulgariser simplement, voilà, ce besoin d'eau, de rétention, de comment dire, de laisser vivre, mais pour tous, c'est-à-dire de pas être trop technique, c'est-à-dire de pas le prendre pour soi aussi, voilà, ce que j'ai envie de véhiculer, mes valeurs et puis ce que j'ai envie de transmettre, mais que ce soit par contre compréhensible pour tout le monde. Est-ce que tu aurais quelques billes là-dessus ? Pas simple, hein ?
Je crois qu'il y a un petit livre qui est, à mon sens, pas inintéressant là-dessus, Ananda Fitzsimmons. Ça s'appelle Restaurer les piliers de la vie. C'est un petit livre orienté éducation à l'environnement sur régénération des cycles de l'eau, régénération de l'eau. Avec des mêmes, tu vois, il y a des exercices, tout ça. Regarde ce bouquin, il va sortir à la Buffineuse en français dans 3 mois. Restaurer les piliers de la vie, Ananda Fitzsimmons. C'est peut-être une des bonnes entrées.
Ben, je prends.
Est-ce qu'il y a d'autres animaux, d'autres vivants en général, avec lesquels il pourrait y avoir une alliance de même portée que l'alliance avec le castor ?
Oui, nécessairement. Oui, il y en a toute une série qu'on ne connaît pas encore, et oui, il y en a qu'on connaît très bien. C'est pas forcément aussi spectaculaire et aussi monospécifique, mais voilà, il y a, je dis dans le livre à un moment, c'est vraiment une propre à l'ironie de l'évolution de la vie sur Terre de donner des pouvoirs régénératifs cosmiques à une créature aussi peu spectaculaire qu'un rongeur, même s'il est quand même charismatique. Et la deuxième meilleure plaisanterie de l'évolution de ce point de vue-là, c'est le ver de terre. Parce qu'en termes d'espèces avec des propriétés de régénération et de produire de l'habitabilité pour la vie, c'est absolument prodigieux. les cortèges de la faune des sols, c'est des alliances qu'on a complètement massacrées par les formes d'agriculture industrielle extractiviste. Les pollinisateurs, c'est des cortèges absolus des grandes alliances qui nous permettent de vivre au quotidien. En vérité, on pourrait en faire des listes indéfiniment.
Un groupe d'espèces remarquables. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est surtout basé sur des communautés complexes. Un exemple qui est moins sur les paysages, mais qui n'est quand même pas négligeable. Dans les années 70, on avait tellement... Il restait à peu près 50 couples de vautours fauves en France. Maintenant, dans les Pyrénées, par la protection, on a dépassé les 1000. La restructuration Alpes-Massif central, on a aussi dépassé les 1000. En moyenne, on a montré que pour 1000 couples, on épargne 430 000 euros d'écarissage et 1000 tonnes de dégagement de gaz carbonique. Pour voir, j'avais écrit ça au CF Bianco ici, il m'a dit non, mais on peut rien négliger, 1000 coupes, 1000 tonnes, il y a toujours ça de gagner. Et si on creuse, le rejet du castor, c'est une espèce clé pour des tas de choses, mais souvent, plus qu'une espèce comme ça, c'est une communauté globale qui a un effet très marqué. Et dans le cas du castor, le cas français, il faut savoir où on en est. Vous avez à peu près la moitié de la surface de la France où il y a zéro castor pour une façon inversant. Le reste, quand on voit la Corse, on dit génial, on a énormément progressé, il restait moins de 100, mais elle fait illusion parce que pour le service écosystémique, parce que ce qui est revenu dans les bassins du Rhône, de la Loire, du Rhin et Moselle, c'est la reconisation sur les grands et moyens cours d'eau. C'est là où il y a l'avenir démographique, mais comme la plupart du temps, il n'y a pas besoin de faire de barrages, c'est très bien pour repeupler, mais la partie écosystémique, on est à peine au démarrage. Il faut la colonisation des petits cours d'eau. Donc on a deux problèmes. Il faut laisser faire ça sur les petits cours d'eau.
Il faut couper,
hein. Et dans le reste de la France, c'est de faire des réintroductions qui ont été complètement suspendues depuis 2003. Mais autrement...
Jean-Pierre...
Tu pourrais leur parler de Forconi, tiens. Je te repasse le truc.
On en a parlé tout à l'heure. Non, oui.
Mais tu vas en parler ?
Je vais en dire un mot.
Ah bon, d'accord.
Bonjour.
Je vais répondre vite. Oui.
Moi, ma question va porter sur le lien avec l'agriculture. Notamment, du coup, vous parlez de la restauration des cours d'eau grâce au castor et du fait que forcément, il y a un lien avec les systèmes agricoles à proximité des cours d'eau. Et aussi, vous avez mis en cause, et je suis tout à fait d'accord avec vous, les systèmes agricoles productivistes sur lesquels on s'est appuyé, sur les développements depuis la Révolution verte, tout ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que justement l'évolution de l'agriculture se fasse moins vite que cette évolution des... Enfin, que ça devienne une sorte de frein à cette restauration de cours d'eau, tant que nos modes de production agricole et que la transition agroécologique ne sera pas assez avancée pour qu'on ait d'autres modes de production agricole, on ne pourra pas avancer sur ces questions de cours d'eau, parce que c'est, entre guillemets, toujours la façon majoritaire dont on produit notre nourriture. Et donc, en fait, il faudrait que ces deux... révolution de la façon dont on traite les cours d'eau et de la façon dont on produit notre nourriture soit accompagnée l'une avec l'autre, parce que si on révolutionne la façon de gérer les cours d'eau sans changer drastiquement la façon dont on fait de l'agriculture, ça pourra jamais marcher. Enfin, et du coup, il faudrait que les deux se fassent de concert. Comment vous appréhendez cette question-là ?
Je l'appréhende en disant que vous êtes beaucoup plus philosophe que moi. C'est-à-dire que, du point de vue des abstractions, vous n'avez peut-être pas tort, mais moi, je suis beaucoup plus terre-à-terre. D'ailleurs, je ne parle pas de révolution. Là, la question, c'est on hérite d'un monde, on hérite de pratiques, on hérite d'un monde asséché dans beaucoup de contextes, ou en tout cas très fragilisé par l'ère du drainage et l'aménagement. On hérite de plaines agricoles, de milieux agricoles qui sont des catastrophes en termes de biodiversité à cause de l'agriculture industrielle à intrants, d'accord, dans beaucoup de contextes. C'est un fait, hein, c'est pas une opinion d'écolo, c'est un fait, je suis désolé. Donc nous, bien évidemment, on a essayé de localiser dès le début l'alliance avec le peuple castor. On appelle ça « mouvement d'alliance avec le peuple castor ». Parce qu'on trouve ça beau et puis parce que ça retourne un peu la modernité sur sa tête. Normalement, les modernes, nous, on considère qu'on passe pas d'alliance avec des rongeurs, on passe des alliances contre humains. Et là, on se retrouve dans des situations où ça a du sens. C'est ce que je défends dans le livre, de rendre l'eau à la terre, de passer des alliances. Nous, on a voulu que ces alliances, elles commencent tout de suite dans le monde de l'agroécologie paysanne assez alternative. Donc dans la Drôme, moi j'ai cofondé des associations paysannes qui s'appellent Fermes Paysannes et Sauvages, et dans lesquelles, justement, c'est là qu'on a fait les premiers systèmes castor. Et c'est là qu'il y a Marco Forconi, du GAEC de Mont-Lahuc, qui a des castors sur son terrain, et avec qui on a fait de la régénération castor chez lui, et qui incarne quelque chose de très intéressant, c'est des figures paysannes qui sont non seulement d'accord pour cohabiter avec un animal qui, dans certains contextes, peut être problématique, mais qui, en plus, favorise cette cohabitation et qui la pensent avec un sens paysan, un sens agricole. Notamment, c'est assez évident à penser dans le monde de l'élevage. Aux États-Unis, c'est ça qui a généré la révolution dans l'Ouest américain. C'est le moment où des ranchers qui, depuis des générations, massacraient les castors systématiquement parce qu'ils estimaient dans la tradition du grand-père et du père que c'était comme ça qu'ils allaient maximiser la quantité de prairies pour les vaches, et qui ont basculé du jour au lendemain en comprenant les schémas que je vous ai montrés, en comprenant l'hydrologie du castor, et qui sont devenus les plus grands défenseurs du castor en montrant comment la capacité du castor à hydrater la terre et à raviver les milieux était tout simplement bénéfique pour la mosaïque d'écosystèmes et donc pour l'exploitation agricole qui était abritée par cet écosystème. Et donc nous en France on porte ça aussi dans le monde paysan avec l'idée que c'est une paysannerie qui est déjà critique, déjà alternative, déjà dans l'autre monde qui va porter les alliances. Et moi je suis radical quant au fait qu'il n'y aura pas d'alliance entre les castors et la maïsiculture industrielle de la FNSEA. Je suis désolé si vous êtes là, la FNSEA, mais vous ne pourrez pas faire d'alliance avec les castors, vraiment, je suis désolé.
Bonsoir. Petite question. Le castor américain et le castor européen sont différents et notamment très intéressants tous les deux, évidemment. Mais je me demandais si tout ce qui est fait aux États-Unis est réellement transposable entièrement en Europe et s'il y a des limites, lesquelles ? Merci.
Oui, une question très intéressante. Fibère canadensis, il se sépare par la béringie il y a entre 7,5 et 8 millions d'années. En biologie de l'évolution, on a toutes les raisons de penser que quand vous avez des comportements de construction aussi élaborés et spectaculaires, c'est que votre ancêtre commun les avait. Donc on postule que l'ancêtre commun à Fibère et Caladensis, c'était déjà un castor constructeur. Donc le trait clé concernant les effets écologiques et hydrologiques est partagé par Fibère et Caladensis. La raison pour laquelle Caladensis, dans notre imaginaire, est un castor qui construit des barrages spectaculaires, colossaux, qui transforment les lieux et que Castor Fibère ne le fait pas, c'est en grande partie la faute à une amnésie environnementale et à Buffon. Bon, je ne veux pas trop casser du sucre sur le dos de Buffon, mais en fait, à un discours, pour le dire assez simplement, nos premiers discours sur les animaux dans l'histoire naturelle puis dans la biologie naissante ont été formulés dans un monde qu'on avait déjà fragilisé, détruit, amoindri, et notamment dans lequel Le castor européen qui était le plus visible était probablement un castor qui construisait beaucoup moins parce que on a des raisons de penser, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais lisez Rémi Luglia là-dessus. Par contre, quand on fait de l'archéozoologie plus fine de ce qui se passe dans les potentiels de construction et de transformation du milieu du castor européen, il n'y a pas de différence significative. On en parle beaucoup avec les Américains de ça. Par exemple, il y a une petite différence liée aux dynamiques de pop des deux animaux, c'est que le castor américain a une dynamique de pop sur une génération un peu plus intense. Il fait plus de petits, on a l'impression qu'on a plus de petits que le castor européen. Mais il faut lire Brio Nichols là-dessus. Si vous regardez ce que fait le castor européen quand il transforme un milieu, quand on lui laisse l'espace pour transformer un milieu, il y a le record de barrage connu de Fiber, à ma connaissance, c'est 265 mètres en Russie. Moi, je connais des ouvrages, je ne vous dirai pas où, je connais un ouvrage de 140 mètres de long en France, des ouvrages de 4 mètres de haut, de 2,50 mètres régulièrement, avec des zones humides colossales qui sont créées. Donc, sur les questions d'éco-hydrologie, c'est-à-dire le fait que c'est une espèce qui a ingénieur qui a façonné le milieu, on n'a pas de raison de penser qu'il y a des différences significatives entre ces deux animaux.
On va s'arrêter là.
Merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là.
Merci à tous.